C'est pour nous un jour d'allégresse qui marquera un nouveau pas en avant de l'Afrique vers un avenir meilleur.
En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance.
L'indépendance, comme la liberté, est un bien. Se conquiert et se reconquiert chaque jour. Et personne n'est de trop pour la préserver de toutes ses forces et de toute son âme.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary. Bonjour à tous. Cette semaine, on continue de voyager à l'heure des indépendances africaines, arrachées au joug colonial il y a déjà 60 ans pour pas moins de 17 pays du continent. Parmi eux, la Côte d'Ivoire, jadis colonie française en 1893, dont nous allons retracer ici les jours, les mois, les années qui ont suivi le 7 août 1960. Mais pour cela, on va rester l'oreille collée au poste pour écouter, comme les Ivoiriens l'ont fait, la chronique de ces jours d'après. Avec au centre la voix du père de la nation et celle aussi d'un vieux père de la radio. Indépendance, les jours d'après, c'est le nom de cette série en 3 épisodes, imaginée et racontée par Vladimir Cagnolari, homme de parole, de musique et de radio. Branché sur la fréquence Indépendance, tournez le bouton, vous entendez ?
Terre d'espérance, pays de l'hospitalité. Voilà, ce sont les premières paroles de l'hymne national ivoirien qui résonne le 7 août 1960 pour la première fois dans tout le pays. Grâce à qui ? Eh bien grâce à la radio, pardi. Et cet hymne, il s'appelle l'Abidjanaise, cousine africaine de notre Marseillaise française. C'est dire si les deux pays, dès l'indépendance de la Côte d'Ivoire, seront liés. Pour le meilleur et pour le pire aussi. Ça, c'était en tout cas le choix d'Oufoué Boigny, médecin, planteur, syndicaliste, fondateur du Rassemblement démocratique africain et ministre du général de Gaulle à la fin des années 50. C'est à cette époque justement qu'un gamin du nord de la Côte d'Ivoire l'entend à la radio. Il vient de la découvrir, cette radio, et il ne sait pas encore quel sera le fil conducteur de sa vie. Il s'appelle Souleymane Koulibaly, plus connu sous le nom de Soro Solo. Et c'est avec lui et la radio nationale ivoirienne qu'on va suivre ensemble les sentiers tantôt glorieux, tantôt tortueux de l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis le soleil des indépendances. On le retrouve à Korogo, sa ville natale, au milieu des années 50. C'était une journée qui avait commencé comme les autres, mais qui allait changer sa vie.
Mon premier souvenir de radio, c'est quand mon père est arrivé de la capitale Abidjan, qui était la capitale politique, parce que bien entendu c'était avant l'indépendance, dans notre quartier Air France à Korogo.
Dans le nord de la Côte d'Ivoire.
C'est ça. On voit le père qui sort une radio qui doit faire genre un mètre sur 50 cm de profondeur. Énorme. J'ai fait, mais ça c'est quelle sorte de chose ça. Ensuite il rouvre d'autres paquets. On voit, il sort une sorte de fil torsadé et il accroche ça au mur. Avec des clous, bien sûr. Aujourd'hui, maintenant, je sais que c'était ça l'antenne. Et il vient l'accrocher dans l'arrière de cette grosse chose qu'il a appelée radio. Et maintenant, il appuie sur un bouton, il entend. J'ai dit, mais ça, c'est le bruit de la forêt, c'est le bruit de la savane. Enfin, bref, ce cérémonial-là, c'est mon premier grand souvenir. Et cette chose-là, quand il a réussi à capter d'où on émettait, bien sûr, c'était d'Abidjan. On entend. Et ici, à Abidjan, le journal de la nuit. Ah, j'ai dit, il y a quelqu'un qui parle dedans. Mais quand même, la boîte là est grande, c'est vrai, mais c'est pas assez grand quand même pour contenir un gars. Mais lui, là, ça doit être un magicien ou un sorcier qui s'est plié en quatre et qui est rentré dans la boîte pour nous parler. Et c'est là notre père nous explique que non, le gars, il parle à Abidjan. Et on l'entend ici. Il y avait un autre à côté, il dit, ah, là, ça, la chose qu'on appelle la radio là. Mais c'est une façon de sorcellerie des Blancs.
Ici Abidjan, radiodiffusion de la Côte d'Ivoire, émettant sur 200 mètres, 1493 kilocycles, et sur 60 mètres, 72, 4940 kilocycles.
À l'époque, donc quand ton papa arrive avec la radio, puisque personne n'était habitué, ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de radio chez vous là-bas. dans le Nord.
Il n'y a personne autour, dans le grand quartier d'Air France. C'était l'un des plus grands quartiers de la ville. Il n'y a personne qui avait la radio. Quand mon père, et plus tard mon père adoptif qui va m'élever, quand il sortait la radio, l'après-midi à partir de 17h, ben, le gros du quartier venait s'attrouper pour écouter cette chose magique.
Toujours en français ?
Toujours en français. À l'époque, tout était en français, mais plus tard, ils vont développer l'information dans les langues nationales.
Et quand l'indépendance est arrivée, toi, tu l'as appris à la radio ?
Ah ben oui, mais quand l'indépendance est arrivée, ce fameux 7 août 1960, les radios étaient allumées dès 6h le matin. Bon, bien sûr, il y a déjà eu, on va dire, le bois qui a précédé l'indépendance. Tu entends, ouais, on dit que les Blancs vont partir, c'est nous-mêmes qui allons diriger notre pays. Bientôt, on va annoncer ça. Et il se trouve que même avant le 7 août, la fête que nous commémorions dans nos pays, c'était le 14 juillet. Et le 14 juillet a été fêté cette année 1960. Mais on a rappelé pendant ce 14 juillet qu'en août, on va proclamer officiellement l'indépendance de la Côte d'Ivoire.
C'était la dernière fois qu'on fêtait le 14 juillet comme fête nationale.
Exactement. Et donc, ce matin, on a ouvert la radio et c'était les musiques des fanfares militaires. On le met au milieu de la cour et on l'ouvre et tout le monde l'entend. Et donc, partout, et comme si les radios, c'était un haut-parleur géant qui animait tout le quartier, vu qu'il y avait maintenant dans notre quartier peut-être deux, trois personnes qui avaient, et tu entendais la même musique et la même ambiance. Mais le genre de musique, tu sens que c'est en prélude d'un grand événement. Le cérémonial a démarré à 8h le matin à la présidence de la République d'Abidjan. Donc, mais à 6h, bing, le journaliste, je passe, et si mes souvenirs sont bons, je me demande si ce n'était pas Kakedim Zogbo, le directeur de la radio.
Lui-même.
Lui-même. Et avec lui, un certain Guy Bart Monori et puis un autre Mamadou Berté. Donc, mais à 6h, musique militaire, le journal qui annonce, et puis on fait des commentaires, on refait l'historique de notre grande amitié avec la mère patrie qu'est la France, et qui dans sa magnanimité, dans sa générosité,
sa clairvoyance,
nous a donné l'indépendance et que nous allons être désormais maîtres de notre destin. Et c'est ces jours-là, comme si le pays s'était arrêté. Non mais je plains ceux qui n'ont pas vécu des moments comme ça. C'était génial ici.
Et du coup, la déclaration d'Oufouet solennelle est arrivée. Vous étiez là au garde à vous.
Ah ben, tu as intérêt à ne même pas vouloir cracher. Parce que le bruit que ton crachat va faire, ça va déranger l'écoute. Et tu vas te ramasser une torgnole. Les parents, les voisins, nous-mêmes, on écoutait ce discours religieusement.
Je proclame solennellement en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire.
C'est la voix de Foué qu'on a retenue. Il était encore très jeune à l'époque, mais il avait déjà cette espèce de voix nasillarde, très posée, du vieux sage qui parle à son peuple. Et ça, ça nous avait tous marqués. Très tôt, je pense à partir de 63-64, Oufouet a décidé de délocaliser la commémoration des fêtes de l'indépendance dans une des grandes villes de la Côte d'Ivoire. Et bien, c'est tout un budget spécial qui était dégagé pour le développement des infrastructures de cette ville, c'est-à-dire un lycée, un grand marché moderne, s'il n'y a pas d'hôpital, un hôpital ou en tout cas un centre de santé. Enfin bref, toutes les grandes infrastructures dont une région a besoin. J'ai vu le cas de Korogo en 1965. tout le gouvernement a siégé à Korogo pendant une semaine, a tenu le conseil des ministres à Korogo, les débats de tout ce qui concerne le pays, c'était à Korogo, et tous les outils de l'État ont déménagé. La radio a déménagé à Korogo, la télévision a déménagé à Korogo, les studios c'était sous des tentes militaires, par exemple. Et les Korogolais, le petit Korogolais que j'ai, me suis senti ivoirien. Je ne me pensais plus en Senoufo de Korogo, mais j'étais ivoirien. Puisque tout ce monde qui venait, c'était des Bété, des Baoulé, des Agni, des Adjoukrou, des Koulango, des Yakouba,
toute la
diversité ethnique de la Côte d'Ivoire se retrouvait là. Et on se parlait entre nous. Et dans la foulée, il y avait la dimension artistique, culturelle. Mais ça, ce n'est pas au fond qu'il a décidé. Ce sont les patrons des médias. Et aujourd'hui, je suis convaincu que la radio a été vraiment un outil de construction nationale. Déjà, à chaque occasion de la commémoration, c'était une sorte de programme radio et télé. Et c'est ainsi qu'en 1966, nous sommes donc le premier fiancé, c'est 60, le deuxième, le troisième, le quatrième et le sixième.
D'accord,
et
ça a été, pour 66.
Voilà, en 66, c'était le concours sixième sillon. Et on a invité les artistes à proposer des chansons. Et dans la ville de Yamoussoukro, la ville d'origine d'Oufuel Boigny, il y avait un instituteur qui s'appelait Jean-Baptiste Yao, qui était un amateur de guitare et d'accordéon. Et lui, pour son plaisir, pour se divertir, chez lui, après son travail d'instituteur, il chantait de petites chansonnettes dans sa cour avec ses enfants. Et c'est ainsi que, comme le concours a été doté d'un prix pour le vainqueur ou les vainqueurs, eh bien Jean-Baptiste Yao a composé cette chanson, Sixième Sillon, Ode à Oufuel Boigny. Et dans la chanson, bien sûr, toute la dimension laudatrice, c'était « Soyez bénis, grand Oufuel Boigny, tous les enfants Côte d'Ivoire vous remercier. Soyez bénis, grand Nana Boigny. » Voilà, je ne la connais pas par cœur. Et c'était ça, le refrain.
Soyez bénis, grand Oufuel Boigny, les jeunes gens de Côte d'Ivoire vous remercier.
Cette chanson est quasiment devenue comme le deuxième hymne national de la Côte d'Ivoire. Donc, si un Ivoirien m'entend, il dit « Oh, solo, tu exagères. » Mais c'était omniprésent. Tu l'entendais partout, dans toutes les émissions de radio. Et après l'hymne national qui ouvrait la chaîne de la radio à 6h le matin, eh bien, la deuxième chanson qui va venir, tu perds certain, deux fois sur trois, c'était le sixième séance de Jean-Baptiste Yahweh et ses enfants. Voilà comment la dimension artistique a donné naissance à ce méga-tube. Mais c'était écouté par tout le monde. Il ne faut pas oublier qu'on était une radio unique. Tu n'entendais rien d'autre, à part la radio nationale. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas,
c'est ça, tu vas
on
écouter.
Va écouter. Un des premiers programmes qui m'a marqué à la radio, ça s'appelait La Famille Yao. En fait, le chef de famille s'appelle M. Bertin Kouakou. Quand il rentrait le soir de son travail, il racontait sa journée à sa famille. Et forcément, il allait mettre l'accent sur quelque chose qu'il avait heurté, qu'il avait offusqué, qu'il avait contrarié. Genre, je ne sais pas, il prend tout bête ou con, il allait à l'hôpital en consultation, et puis l'infirmier, le médecin, d'abord ne l'a pas parlé avec beaucoup de respect, et puis ils ont traîné, ça pris une heure, deux heures, trois heures, et il va venir raconter ça pour parler du dysfonctionnement du service public qu'est l'hôpital. Donc La Famille Yao était plutôt une chronique de mise en scène dans une famille, avec les enfants qui posent des questions, les neveux, les petits frères qui posent des questions, et le chef de famille, Bertin Kouakou, qui raconte. Dites-vous, c'est quoi ces histoires-là, hein? On les paye pour nous soigner. Et puis tu arrives à l'hôpital, ils ne s'occupent pas de toi. Donc c'était déjà un espace de liberté d'expression dans un pays avec quand même un chef unique, un parti unique, une radio unique et une parole unique. C'était pour moi déjà les premiers signes de l'aménagement de l'espace de la liberté d'expression dans une radio comme Radio Côte d'Ivoire.
nous avons hérité, non pas d'une nation, de nos colonisateurs, mais d'un État. La nation est une construction de longue haleine.
En Côte d'Ivoire, on passe très rapidement à un régime de parti unique, avec Houphouët un peu en Dieu le Père. D'ailleurs, lui justifiait le parti unique en disant que si on ouvrait l'espace démocratique complètement, on risquait de se retrouver avec les Baoulés qui votent pour les Baoulés, les Dioula qui votent pour les Dioula, les Bété qui votent pour les Bété, etc.
C'était donc plus ou moins vrai.
Je voudrais savoir comment, du coup, Houphouët était présent à la radio.
Mais la radio était l'incarnation de la puissance d'Houphouët, de son mythe, et puis de sa suprématie sur tout le reste. Et ça se traduisait par quoi? Ça se traduisait par le fait que chaque journal, quand il y a deux journaux dans la matinée ou dans la soirée, chaque journal était d'abord ouvert par une pensée de Houphouët Boigny.
Himself.
Lui-même. Le journaliste avait obligation de lire, ça s'appelle la pensée du jour. Celle que j'ai retenue le plus, c'est le vrai bonheur n'est apprécié que lorsque l'on l'a perdu. Et tous les journaux, ils variaient, mais il y a certaines des pensées d'Houphouët Boigny qui revenaient. Le quotidien national, qui était édité, financé intégralement par l'État de Côte d'Ivoire, qui s'appelle toujours Fraternité Matin, eh bien, à la une du journal, il y a un encadré, la pensée du jour. La presse écrite ouvrait avec la pensée du jour. La presse audiovisuelle à la radio ouvrait les journaux avec la pensée du jour. La télévision nationale ouvrait avec la pensée de Houphouët Boigny himself. Tout ça pour dire la présence de l'homme. Il était omniprésent. Il y avait des tas d'autres raisons, même des comme moi qui ont critiqué tout ça plus tard pour dire ouais, liberticide, dictature, blablabla. Mais avec le recul, c'est pas parce que je suis devenu un peu plus sage, mais au moins on voit les éléments qui peuvent nous l'expliquer. Cet homme, ce monsieur qui est Houphouët Boigny, il a lutté pour les indépendances, mais même avant les indépendances, il a lutté pour obtenir l'annulation, la suppression des travaux forcés.
Qui était un impôt, hein, au temps colonial, voilà, que les administrations françaises réclamaient à tout citoyen.
Toutes les populations. Mmh. Et même pire, c'est qu'on allait collecter dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire des travailleurs qui venaient non seulement travailler sur des chantiers publics, mais aussi parfois travailler dans les champs de production de café et de cacao des Français.
Des planteurs privés.
Des producteurs privés.
Des colons, quoi.
Voilà, des colons. Alors, tu imagines ça? Le gars qui, par son action syndicale, par son action politique, a réussi à éliminer, éradiquer, je veux dire, cette espèce de violence dans l'esprit de nos parents, c'était un demi-dieu. Donc, tu as une explication.
J'ai été souvent sollicité pour livrer mon mémoire, égrener mon souvenir de la marche difficile mais merveilleuse de notre mouvement. Avec humour, alors que l'humour n'est pas français. Je vous ai toujours répondu en souriant. Il y a deux grands personnages au monde qui n'ont jamais écrit, qui ne diraient même pas un mot, mais une seule lettre, mais qui sont cependant les plus lus dans le monde, Mahomet et Jésus-Christ. Et vous m'avez dit, ils ont fait écrire par leurs disciples. Mais vous êtes aujourd'hui ici rassemblés, jeunes vieux, disciples de mon action.
Et Alpha Blondie, lui aussi a aimé Houphouët. La Côte d'Ivoire aborde les années 70 avec le vent en poupe et le fameux miracle ivoirien, dopé par les cours du cacao et du café au plus haut, semble donner raison à Houphouët Boigny. D'ailleurs, de toute l'Afrique de l'Ouest, et en particulier de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina, la main-d'œuvre agricole émigre en masse pour défricher la forêt, cultiver, récolter, mais aussi construire les ponts, les routes, les barrages, les ports. Oufouet triomphe. Et ses amis français sont contents. Ils sont d'ailleurs très nombreux encore dans le pays et gèrent une part très importante de l'économie. Pour Oufouet, c'est gagnant-gagnant. Mais à quel prix et jusqu'à quand? En tout cas, en 1978, le président ivoirien savoure la réussite de son pays et accueille en grande pompe son homologue français, inaugurant pour sa venue un immense boulevard, le VGE, le boulevard Giscard d'Estaing.
Je vais maintenant vous faire entendre un enregistrement qui nous vient d'Abidjan. Voilà comment la radio ivoirienne présente à ses auditeurs la venue pour 5 jours de Valéry Giscard d'Estaing et comment Oufouet Boigny, qui fut, rappelez-vous, député et ministre en France, aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire, envisage la coopération entre la France et son pays.
Des rives grouillantes de la Seine aux berges alanguies des lagunes ivoiriennes, le vent qui souffle redynamisera le dialogue euro-africain dont les porte-paroles en pour nom Valéry Giscard d'Estaing et Félix Oufouet Boigny.
Une formidable ovation, une véritable explosion de joie, impressionnant pour un occidental. La Côte d'Ivoire a salué Giscard à l'africaine. Elle a chanté et dansé au rythme des tam-tams. Cet accueil populaire valait tous les discours. Le président Oufouet Boigny n'a pas manqué de le souligner en souhaitant « Aquaba à Giscard ». Bienvenue à Giscard.
Aquaba VG.
C'était l'orchestre de la RTI en 1978, avec à la baguette un certain Manu Dibango. En cette fin des années 70, Soro Solo, oui, le jeune garçon de Korogo qui était fasciné par la radio, a bien grandi. Et il commence à réaliser son rêve. Entré au studio-école de la RTI, la radio-télé ivoirienne, il anime ses premières émissions de radio. Bientôt, il partira compléter sa formation en France. Et quand il revient au pays, les premiers nuages commencent à s'amonceler dans le ciel ivoirien et vont doucement mais sûrement, au cours des années 80, voiler le soleil radieux de l'indépendance. Les cours du cacao et du café chutent brutalement, les caisses de l'État se vident et bientôt, le FMI imposant sa cure d'austérité, l'État-providence devient un État en souffrance. La crise sociale s'installe et avec elle, le mécontentement politique se réveille, d'autant qu'en 1989 tombe le mur de Berlin. C'est la fin de la guerre froide et partout en Afrique souffle le vent de la démocratisation. En Côte d'Ivoire, Oufouet, pressé par la grogne des étudiants et des professeurs notamment, accepte le retour au multipartisme. Nous sommes en avril 1990 et son parti, jusque-là unique, le PDCI, doit partager la scène politique avec d'autres formations comme le FPI de Laurent Gbagbo. Enfin, partager, c'est peut-être un bien grand mot. Ce n'était pas tout à fait le cas à la radio.
Pour ouvrir à d'autres voix, à d'autres expressions, à d'autres cultures que celle de la voix unique, du président unique et sa radio unique, je dois reconnaître que les décideurs de la radio ne l'ont pas fait de bon cœur, ne l'ont pas fait spontanément, non.
Eux étaient toujours nommés par le chef.
Voilà. Et donc, les trois quarts d'entre nous qui sommes journalistes ou producteurs radio, la grande majorité d'entre nous, on est des vrais chiens de garde du pouvoir. On est le porte-voix du pouvoir, de tout ce que, tout sort de pouvoir. Le pouvoir économique, le pouvoir politique. Donc, quand cette agitation a commencé dans nos pays, je veux dire, ce vent du changement, et la radio n'était pas inscrite dans le mouvement spontanément. Je me rappellerai toujours de l'un de mes directeurs de la radio. Il dit, mais non, mais ce sont des bandits. On ne peut pas donner le micro à ces gens. Sauf que, quand légalement on a reconnu officiellement en 1990 les nouveaux partis, on avait obligation de leur donner la parole. Mais, comment on appelle, c'était pas aussi équilibré que ça. On va donner 10 minutes au PIT, on va donner au FPI peut-être un quart d'heure. À l'autre bout, on va donner une heure au PDCI. C'est comme ça que ça s'est fait, sauf dans le cadre de l'élection présidentielle. La première élection démocratique en Côte d'Ivoire, c'était en octobre 1990. Là, on a respecté le temps de parole à la radio et à la télévision entre Gbagbo et Félix Houphouët-Boigny. On a essayé.
Nos auditeurs africains nous quittent. Ils rejoignent Jean-Karim Fall pour Afrique Midi.
Afrique Midi. Bonjour à tous. La victoire de Félix Houphouët-Boigny, selon les toutes dernières estimations, le président ivoirien sortant recueillerait un peu plus de 81% des suffrages exprimés. Le ministre ivoirien de l'Intérieur rejette sur l'opposition, sur le Front populaire ivoirien, la responsabilité des incidents qui ont perturbé le scrutin de dimanche.
Les incidents qui ont marqué le scrutin pour l'élection présidentielle sont tous le fait des bandes fanatisées de M. Gbagbo. Mais que veut donc M. Gbagbo ? Est-ce cela la démocratie ?
Avant que les opérations de vote n'aient lieu, dans beaucoup d'endroits, les représentants du PDCI ont refusé d'ouvrir les urnes. Il y a eu donc des bagarres. Mais quand nos délégués ont eu le dessus et qu'ils ont pu ouvrir les urnes ou qu'ils ont pu la fracasser, on a découvert que les urnes étaient remplies.
Dans ces années du renouveau ivoirien, à la veille, mais déjà en 1989, j'arrive avec une chronique de 5 minutes que j'ai appelée Le Grognon. Exactement comme mon aîné, Bertin Kouakou, dans la famille Yao des années 60.
Qui lui en faisait une fiction.
Voilà, qui en faisait une fiction. Mais moi, ce n'était pas une fiction. J'allais observer un détail dans un service public et le lendemain, j'en faisais une chronique. Exemple, je vais un jour à la poste, au cœur d'Abidjan, le quartier des affaires, le Manhattan africain. Et je vais donc au bureau de poste à 16h25. Je vais en faire un mandat à quelqu'un dans l'ouest de la Côte d'Ivoire qui est à Mans. Et j'arrive au guichet, la dame dit « Non monsieur, le service est fermé. » Je dis « Comment ça ?» C'est bien marqué, ouverture des bureaux, 14h, 18h. Oui, non, mais c'est le service financier économique qui est fermé. Tout ce qui est transactions financières est fermé. Je dis, mais pour me montrer où c'est inscrit. Ah non, mais c'est comme ça. Je dis, ah, c'est comme ça. Le lendemain, à 6h05, chronique, et bah, et j'allume. Je dis, voilà, je voulais faire un mandat. La dame a refusé de faire mon service. J'avais au bas mot 15 millions d'auditeurs.
Eh oui, c'était encore la radio unique.
Ah ben oui, il y avait 15 millions. Donc c'est 15 millions d'auditeurs, dont les directeurs. Et je crois que le PDG de Postel, il a entendu, il a vu qu'il était en danger. Parce que déjà en 1989, il ne faut pas oublier que dans la politique, dans l'organisation d'Houphouët-Boigny, il a fait venir un cadre supérieur du Fonds monétaire international qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, qui organise tout le service public. Et dans son conseil des ministres, mais quand les mecs qui avaient fonctionné, s'il y avait une critique contre un quelconque département, j'ai envie de dire, ils lui remontaient le bretelle. Bref, c'est la preuve qu'avec un outil comme la radio, on peut améliorer non seulement le service public, et on peut démontrer à tout le monde que tant qu'on peut s'exprimer librement, on peut critiquer, mais en veillant à dire des choses sur la place publique qui sont vérifiées et vérifiables. Et cette émission va durer quand même jusqu'en 2000, pendant plus de 10 ans.
Parce qu'au départ, c'est toi qui allais observer et qui racontais à partir d'une expérience vécue les dysfonctionnements des administrations et autres. Mais ensuite, tu as ouvert ça aux auditeurs.
Tout à fait, ça a été la deuxième phase. quand on a réouvert les zones aux radios privées, de nouvelles radios vont se créer, comme Radio Nostalgie, ou des radios comme Africa numéro 1, qui va plus tard s'appeler Africa Radio. Bref, tous ces radios vont arriver, mais pour conforter sa position, la Radio Nationale ouvre une radio thématique qu'on a appelée Fréquence 2. Et ça, c'était vraiment très ludique pour le divertissement. Et, bref, ils avaient la fâcheuse tendance à ouvrir le téléphone à tout le monde. Donc, quelqu'un appelle...
Interactivité, quoi.
Interactivité, ouais. Moi, je suis à Yopougon, mais putain, on s'enjaille ici dans mon quartier. Bon, bref, la chaîne nationale, ayant vu que cette ouverture du téléphone interactif a eu un énorme succès. Mon patron m'appelle, il me dit, ouais, Solo, peut-être dans la matinale, il faut que tu fasses quelque chose un peu comme ça. Bon, le premier jour, j'ouvre, je l'entends, oui, bah, salut, ça va, vous faites quoi chez vous là-bas? Puis le gars, il déblatère, il raconte son ambiance. Puis on était à une minute de ma chronique.
Parce que tu la faisais quand même dans la foulée.
Voilà, dans la foulée. Je ne sais pas quel esprit saint m'a visité. Il dit, mais dis-moi, ouais, pendant que je suis avec toi, là, dans ton quartier là-bas, est-ce que tu n'as pas observé des choses qui ne vont pas? Il dit, quoi, par exemple, je ne sais pas, est-ce que la voirie ramasse les ordures tous les jours? Est-ce que les médecins, les infirmiers sont là à l'heure? Mais nous on souffre, nous sommes les pauvres, nous, personne ne s'occupe de nous. Et regarde, tu connais la rue Princesse, non? Il dit oui, bien sûr.
Vraiment la rue de l'ambiance.
Voilà, hein, la rue de l'ambiance. Mais je te dis, tous les soirs, il y a coupure d'électricité pendant plus de 2 heures.
Ça, c'est pas bon pour l'ambiance.
C'est pas bon. C'est quoi ça? C'est parce qu'on est dans un quartier populaire, ils s'en foutent de nous. Est-ce qu'ils coupent l'électricité comme ça à Cocody? Il faut rappeler que le Cocody, c'est le quartier des résidences. Ou aux deux plateaux, c'est le quartier où il y a tous les ambassadeurs. Il dit non, c'est pas vrai. Il dit, ah, d'accord. Donc, c'est ça. Bon, écoute, ma chronique, c'est dans une minute. Je vais en profiter pour interpeller le directeur général de la CIE. C'est la Compagnie Ivoirienne de l'Électricité. Et je prends maintenant mon micro. Monsieur le président de la CIE, il se trouve que depuis une semaine, à Yopougon, rue Princesse, on coupe l'électricité. Donc, vraiment, je suis le porte-parole des populations. Faites quelque chose pour améliorer cette situation. Oh! Du coup, j'ai même plus fait ma chronique parce que le téléphone a commencé à crépiter. Oui, solo, ce n'était plus pour dire oui, on s'est enjaillé, on a fait la fête avec tel camarade. Ils ont commencé à raconter
tout ce qui n'allait pas.
Tout ce qui n'allait pas. Et il n'y avait pas d'intermédiaire.
Pas de standard, quoi, qui filtrait les appels.
Non, c'est pas comme chez vous ici, dans RFI, il y a un standard qui reçoit, qui sélectionne. Non. Moi, c'était en direct. Mon patron de la radio à l'époque s'appelait Ouattara Nyongé. Il m'a convoqué un matin, il dit, Solo, si je m'écoute en tant que journaliste, je t'applaudis, c'est excellent. Mais je suis un responsable politique aussi. Je vais être cash avec toi. Si je te dis de changer, je te connais, tu ne vas pas changer. Mais si tu as un quelconque souci avec le sommet de l'État, moi je te lâche. Moi je défends ma peau. Il dit, mais moi j'apprécie ton honnêteté. C'est pas grave. On va essayer. Et je continue.
En tout cas, c'était une manière de faire de la politique en passant par le social et tout ce qui n'allait pas dans le pays. Parce que les gens qui t'appelaient, par contre, s'ils racontaient leurs problèmes de quotidien, ne s'en prenaient pas au fouet.
Au fouet, ni à ses ministres. Ils disaient seulement, ah, le téléphone est coupé chez nous. Ah, la voirie ne marche pas. Ah, l'électricité est coupée. Ah, il n'y a pas d'adduction d'eau.
Mais du coup, ça pose la question, qu'est-ce qu'ils font?
Voilà. Qu'est-ce qu'ils font?
Le soleil s'est couché ce matin.
Mes chers compatriotes,
et tous les drapeaux ont baissé les yeux.
Nous venons d'apprendre ce matin l'information la plus cruelle de notre histoire nationale. Le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus.
Pendant plus de 2 semaines, les populations ivoiriennes, venues du nord au sud, de l'est à l'ouest, iront s'incliner en signe de compassion devant la famille Foy-Boigny, brisée par l'émotion et le chagrin.
7 décembre 1993, le soleil du Foy-Boigny s'éclipse. Le même jour, la nouvelle est annoncée d'abord par Alassane Ouattara, le Premier ministre, puis par Henri Conan Bédier. La course au pouvoir, on dirait, a commencé. C'est le second président de l'Assemblée nationale qui succède à Houphouët selon la Constitution et termine son mandat. Ouattara, lui, retourne au FMI à Washington DC. C'est là qu'Houphouët avait été le chercher. Pour les élections suivantes, celle de 1995, il est écarté de la course à la présidentielle et Laurent Gbagbo décide de boycotter l'élection. Mehdi remporte donc une victoire à la Pyrrhus sans véritable adversaire. Le climat politique ne pouvait que pourrir. D'autant que la crise économique va réveiller de nouveaux démons. Dans un cercle d'intellectuels autour d'Henri Conan Bédier naît l'ivoirité, un concept qui, pour schématiser, ressemble à celui de la préférence nationale et qui veut faire le tri entre les vrais ivoiriens et ceux que l'on appelle alors les ivoiriens de circonstance. Une bombe à retardement. Dans ce pays où les frontières ont été tracées par les colons et dont Houphouët-Boigny avait fait une terre d'accueil. Elle vise bien sûr à disqualifier Alassane Ouattara, taxé d'étrangers, mais avec lui des millions d'Ivoiriens qui, comme lui, ont un nom que l'on retrouve au Burkina, en Guinée ou au Mali. Soro Solo, lui, envers et contre tout, continue son grognon à la Radio Nationale.
On avait un directeur de programme à la radio qui, je pense qu'il en avait marre de mon grognon. Et en 99, il fait, je ne sais plus quel prétexte il a avancé, il dit, ouais, Solo, je pense que tu es fatigué, il faut que tu prennes des vacances. Comment ça, des vacances? De toute façon, par rapport à ce que tu as dit concernant la présidence, c'est pas vérifié, c'est pas vérifiable. C'est une faute professionnelle. Donc il me suspend de l'antenne. On est en juin 1999. Je suis suspendu. Et j'ai mon salaire. Il n'a pas touché à mon salaire. Bon, moi, dans la foulée, j'étais membre du conseil artistique de Afrique en création, structure de développement de la création et de la diffusion de la création africaine. Donc, comme je suis suspendu, et j'ai mon salaire. Et dans ce mois de décembre, il y a la réunion Afrique en création. Donc, je prends mes cliques et mes claques et mon avion, et voilà, moi, à Paris, en train de profiter de Paris que j'adore, et puis de faire mon travail d'Afrique en création. Et voilà que, dans ce mois de décembre, le jour de Noël, je suis à Paris, j'écoute la radio, bing, coup d'État en Côte d'Ivoire, Conan Bédié est tombé.
Quand un général s'engage,
aidez-nous à aider les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Nous sommes venus pour balayer la maison. Une fois qu'on aura mis de l'ordre, et croyez-moi, je ne suis pas un ambitieux du pouvoir. Sinon, j'ai les mêmes aptitudes que mes frères d'armes de cette pays. Militaire,
appelle-toi, appelle-toi, tu nous avais promis, appelle-toi.
Je considère l'Assemblée nationale dissoute, le gouvernement est dissous, certaines institutions de la République comme le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, je les considère dissous.
Ah oui, le coup d'État de 99 qu'il a.
Général Guéhi.
Du général Guéhi. J'ai dit, putain les gars, les choses ont changé au pays, vite les enfants, moi je retourne au pays. On dit, mais quoi, comment, pourquoi? Ça faisait quand même 2 mois que je traînais en France. Ah, j'ai pris mes cliquets, mes claques. Abidjan, Côte d'Ivoire. Le lendemain donc de mon atterrissage, ben, je fonce à la radio pour prendre les nouvelles. C'est l'armée qui est partout dans la cour de la radio. C'est le général Guéhi qui est au pouvoir. Et je vois les militaires qui m'ont vu arriver. Pouh, ils me portent. Mais au-dessus de leurs bras, en triomphe, le grognon, le grognon, le grognon. Et puis j'arrive, je vois l'équipe de direction de transition qui était là pendant le coup d'État. Eh bien, tout le monde dit, bon, ouais, Solo, tu es arrivé, mais t'étais où? Je dis, non, mais moi, j'étais suspendu, j'étais à l'étranger, blablabla. Bon, après toi, demain, tu reprends l'antenne. C'est des militaires qui me remettent à l'antenne ce mois de décembre 1999. C'est quand même surprenant. Les militaires qui sont perçus dans nos pays comme les antidémocrates, les violents, les tortionnaires en tout genre, c'est un pouvoir militaire qui me remet à l'antenne pour une émission qui les a quand même un peu fait chier, quoi. Excusez-moi l'expression. Parce que régulièrement, les militaires, les douaniers, les gendarmes, les policiers étaient sur le grill du grognon, quoi. Mais pratiquement toutes les semaines, il y avait un cas de figure concernant, comme on les appelle chez nous, les corabiers. Mm-hmm. Et c'est eux-là qui me remettent à l'antenne. Donc, voilà comment, sous le règne de Bédier, j'ai été suspendu et puis remis au goût du jour à l'antenne avec l'armée du général Guéhi qui a repris le pouvoir.
Le général Guéhi, le Père Noël en treillis, comme on l'a appelé alors, avait bien sûr promis de ne pas s'éterniser au pouvoir. Mais à l'approche des élections de 2000, il passe chez le tailleur et troque son habit de général contre un costume présidentiel. Ouattara, ça devient une habitude, est exclu de la compétition. Oui, on lui cherche toujours des noises sur sa nationalité. Les élections donc arrivent. Guéhi, qui a perdu, s'autoproclame vainqueur. Gbagbo, bien sûr, réagit et fait descendre ses partisans dans la rue. Là-dessus, les partisans du RDR, le parti de Ouattara, descendent à leur tour pour réclamer cette fois-ci un nouveau scrutin. C'est là que Bamban, entendez, le conflit atteint son paroxysme. La gendarmerie et une partie de l'armée se rallient à Gbagbo. Guéhi se décourage et les partisans de Ouattara sont matés. Au lendemain de ces jours de braise, on retrouve 57 corps dans un charnier à Yopougon, la grande commune du nord-ouest d'Abidjan. Laurent Gbagbo le dira lui-même, il a été élu dans des conditions calamiteuses. Et la suite n'allait rien arranger. Moins de 2 ans après son élection, une rébellion éclate.
Situation confuse en Côte d'Ivoire, tentative de coup d'État. C'est une mutinerie de militaires qui a éclaté très tôt ce matin. Situation normalisée à Abidjan, ce qui n'est pas le cas à Korogo ou encore à Bouaké. Une demi-heure d'actualité sans interruption. Bienvenue, bonjour à tous.
En septembre 2002, dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, une rébellion éclate qui tente de renverser militairement le régime de Gbagbo. Et je suis toujours à la matinale. Je suis arrivé à 4 heures du matin. Et bien, j'ai retrouvé tous les responsables de la radio. Ils m'ont dit, non, c'est quelqu'un d'autre qui fait la matinale aujourd'hui. J'ai dit, mais pourquoi? Non, non, c'est compte tenu de la situation particulière, on fait un réaménagement, on te dira ce que tu feras. Ah bon, d'accord. Et comme je n'avais pas beaucoup dormi, ben, je suis retourné dormir chez moi. Et dans la journée, je suis revenu à la radio et je vois une liste de 60 personnes, et de la radio, et de la télévision. Et c'était inscrit pour cause de réorganisation des services. Les personnes dont les noms suivent sont temporairement suspendues des antennes de la RTI. Et parmi ces noms, il y avait le mien. C'est comme ça que, en septembre 2002, j'ai été suspendu de l'antenne de la radio de la Côte d'Ivoire. Et puis bon, ok. Et j'ai assis de façon mais évidente, grossièrement, la chasse à tous ceux qui avaient un nom du nord de la Côte d'Ivoire qui étaient soupçonnés d'être des solidaires de cette rébellion. D'ailleurs, comme on l'a inscrite dans les articles, une rébellion descendue du nord. Oui, c'est vrai, elle est descendue du nord. Mais le siège de cette rébellion était à Bouaké, qui est un pays baoulé, pas un pays sénoufo ni un pays djoula. C'était à Bouaké, la deuxième ville de la Côte d'Ivoire, qui est une ville baoulée. Donc tous les gens du Nord étaient plus ou moins pourchassés. Les contrôles intempestifs, le contrôle au faciès, non, c'était pas contrôle au faciès, c'était contrôle non patronomique. Et on se faisait arrêter dans les rues. Moi, des fois, quand je me baladais dans le plateau, j'entendais des voix dans mon dos. Ce sont les djoula là qui veulent faire coup d'État dans notre pays. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Dans mon quartier, pareil. Bref, je vous fais l'économie de tous les détails. Jusqu'au mois d'octobre, c'est-à-dire quasiment un mois après l'explosion de la rébellion, ma femme perd une de ses tantes et on va l'enterrer dans le plus grand cimetière d'Abidjan qui s'appelle le cimetière de Williamville. Et à 14h30, le 18 octobre 2002, à un moment donné, on finit l'enterrement et puis on a laissé un groupe de personnes parce qu'on était encore sous le couvre-feu. Bon, on devait tout terminer pour qu'à 16h, tout le monde commence à quitter le centre-ville pour rejoindre les banlieues, pour ne pas tomber sous le couvre-feu qui démarrait à 19h. Bref, et c'est à ce moment, moi, je laisse les jeunes. Et au moment où je sors du cimetière, je croise une cabine, une double cabine de remplie de gendarmes. Et dans ma tête, je fais, oh non, les gars, ils exagèrent quand même.
Les double cabine, c'est les camions, hein?
Ouais, les camions, là. Qu'est-ce qu'ils ont à venir faire dans un cimetière où on enterre des morts? Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils allaient direct à l'emplacement, dans le lot où on avait fait l'enterrement de ma belle tante. Et c'est ce qu'on a laissé qu'ils vont nous expliquer après. Ils sont arrivés, ils ont dit, c'est bien des funérailles des gens de Korogo. Oui, monsieur l'agent. Bon, sortez vos pièces d'identité, contrôle de routine. Ils étaient 8. Et ils font le contrôle. Parmi les 8, il y en avait 2, Lanzeni et Seydou, 25 et 26 ans. Koulibaly Seydou, Koulibaly Lanzeni. Il regarde les pièces d'identité, arrive à Lanzeni, couche-toi ici. Il le couche sur le tombeau. Arrive à Seydou, Koulibaly Seydou, couche-toi ici. Et l'un des gendarmes dit, c'est pas vous les musulmans qui voulez faire un coup d'état dans notre pays, vous allez faire votre coup d'état en enfer. Et il dégaine et pom, pom, il leur bougie la cervelle. Le troisième Koulibaly, c'était moi. Si j'avais été là, je ne serais pas là à témoigner devant le micro de RFI. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il fallait que je disparaisse de la circulation de la Côte d'Ivoire. Et je me suis échappé. Et je suis arrivé dans ma famille d'accueil qui m'a accueilli en France en 2003. Et depuis, j'y suis. Ça va faire bientôt 18 ans.
Oui, ça fait 18 ans que Soro Solo a quitté les ondes ivoiriennes et son pays. Un pays qui n'avait pas fini sa descente aux enfers. Une Côte d'Ivoire coupée en deux, des rebelles au nord, une armée loyale à Laurent Gbagbo au sud, et au milieu, une armée française qui fut la première à s'interposer, et qui sans doute, en suivant le sens de l'histoire, aurait dû être la dernière à devoir le faire. La RTI, elle, plus que jamais, devint une machine de propagande guerrière. Les rebelles, enfin les forces nouvelles, avaient aussi leurs propres médias qui faisaient de même. Et la suite, on ne la connaît que trop. Une Côte d'Ivoire déchirée, violentée, qui retrouve à la fin des années 2000 un semblant d'unité. Cette Côte d'Ivoire, qui aura cru le temps d'un débat télévisé entre Gbagbo et Ouattara, fin 2010, que les élections pourraient rimer avec autre chose qu'avec la guerre. Moi aussi, j'y croyais. Quelques mois et bien plus de 3000 morts plus tard, et après une nouvelle intervention de l'armée française, Alassane Ouattara devenait président et le pays retrouvait laborieusement une certaine stabilité. Mais comment se réconcilier quand les enfants d'Oufouet, à commencer par les chefs politiques, avaient tout mélangé? Soro Solo, je le connais bien, suivait tout cela de loin, le cœur meurtri. Il était loin le temps où, gamin, il avait appris à se sentir ivoirien plutôt que sénoufo. Le temps aussi où la radio servait à construire une nation et où le grognon rappelait à chaque citoyen qu'il avait des droits. Alors, il s'est mis à parler de l'Afrique, à la raconter aux Français. Toujours à la radio.
Vous savez, moi, j'aime raconter ça de cette façon. Moi, je suis un cancre. Je ne sais rien faire d'autre. J'aspire un seul métier dans ma vie. C'est la radio. J'ai une seule amante. Et cette amante, c'est la radio. La seule chose qui me fait vibrer, qui entretient ma libido, c'est la radio. C'était pas possible.
Indépendance, les jours d'après, c'est une série de Vladimir Cagnolari et Laure Allary. Merci à eux pour ce second épisode ivoirien. Merci à la Sonothèque de RFI, à nos amis des archives de Radio Côte d'Ivoire. Un immense merci, enfin, à ce grand enfant de la radio et de la Côte d'Ivoire, qu'est Soro Solo. Et comme la radio, notre homme n'a pas dit son dernier mot actuellement. Il anime Covid, on dit quoi même, une émission diffusée sur les radios nationales de 6 pays sahéliens. Vous pouvez retrouver en ligne, dans nos podcasts, le premier épisode congolais de cette série. Céline Develay Mazurel, Laure Allary, Vladimir Cagnolari, on vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, faites de beaux voyages à l'écoute de RFI.